Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, minuit, 9 grandes métropoles vont passer en couvre-feu. Et désormais, à 21h, ce sera chacun chez soi, pour reprendre l'expression de Jean Castex. Et ce, alors que l'épidémie bat des records de contamination, plus de 30 000 pour la seule journée d'hier. Comment ce couvre-feu est-il accepté? Par les Français, tout d'abord, mais aussi par les restaurateurs, les professionnels du spectacle, du monde de la nuit. Quelles conséquences sur le moral, sur l'économie du pays, avec des centaines de milliers de Français qui basculent dans la pauvreté? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « La France à l'heure du chacun chez soi ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, auteur de L'Archipel français qui vient de sortir en poche. Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, où vous signez cet édito intitulé « Couvre-feu sur les réformes ». Fanny Guinochet, journaliste spécialiste des questions économiques et sociales, chroniqueuse sur France Info. Et enfin, Ève Roger, vous êtes chef du service société à Europe 1. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bah, Jérôme Fourquet, on commence avec vous sur l'acceptabilité de cette mesure. Est-ce qu'il y a un risque de fronde demain soir ou même dès cette nuit à partir de minuit, avoir des Français qui voudraient ne pas respecter ces règles?
Écoutez, si on croit les sondages de nos confrères, entre 65 et 70% des Français approuve ou adhère à l'idée d'un couvre-feu localisé dans les plus grandes métropoles françaises. Donc c'est quand même une acceptation résignée d'une très large majorité de nos concitoyens. Les gens ne sautent pas de joie après cette annonce, mais ils sont un peu sur le registre du « s'il faut en passer par là ». Plusieurs éléments contribuent à ça. D'abord, il y a eu un travail de préparation de l'opinion qui avait été mené par le gouvernement dans les jours qui ont précédé cette annonce. Une enquête de l'IFOP qui avait été faite 24 heures avant l'annonce montrait que 88% des Français s'attendaient à l'instauration d'un couvre-feu. Ouais. Donc la mesure n'est pas tombée comme un coup près, elle était déjà anticipée. Puis l'autre élément, c'est que l'inquiétude sanitaire repart à la hausse. 70% des Français sont inquiets pour eux-mêmes ou pour leurs proches face à un risque de contamination. Alors on est loin des scores qu'on avait observés à la mi-mars, on était à 85 ou 90% d'inquiétude.
Mais hier, on a eu ces chiffres, hein. 30 000 contaminations en 24 heures. Le 1er septembre, j'ai regardé, on était, ou le 31 août, il y a début, on était à 3 000.
Voilà. Donc ces chiffres, ils sont martelés. On a aussi beaucoup d'échos et des reportages sur ce qui se passe dans les services de réanimation. On a les soignants qui s'expriment dans les médias en disant qu'ils voient la vague monter de jour en jour. Et tout ça est intériorisé, intégré par les Français. Quand ils regardent aussi à l'étranger, il voit que Donald Trump, tout puissant soit-il, a été lui-même contaminé, que des pays qui s'en sortaient plutôt bien, l'Allemagne, prennent des mesures, que l'Espagne a reconfiné certaines villes. Et donc, tout le monde a conscience que le virus est bien là. Et donc, tout ça concourt ou contribue à une acceptation résignée des mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y aura pas des frondeurs, des frontements, des mouvements de rébellion. Et puis, il faudra voir aussi comment les professionnels concernés eux vont réagir parce que beaucoup jouent l'avenir ou la survie de leur entreprise.
Et on va en parler. Ève Roger, des Français résignés et inquiets. Ce soir, c'est les vacances de la Toussaint. Alors, est-ce que ce sera des vacances, pour reprendre l'expression du Premier ministre, chacun chez soi? Souvent, pendant les vacances de la Toussaint, les parents travaillent et ils amènent les enfants chez les grands-parents.
Alors, on a déjà remarqué que le Premier ministre et le Président n'ont pas dit « restez chez vous ». Ils ont dit « vous pouvez vous déplacer en prenant toutes les mesures de protection possibles ». Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas peur que le virus s'égaye dans la nature et se disperse, puisqu'il y en a partout, ou presque partout. Donc, ça, c'est déjà une chose qui permet quand même de se déplacer et puis de prendre des vacances. Je crois que tout le monde a besoin de souffler. Il n'y a pas le couvre-feu partout. Donc, peut-être pour les grandes métropole, c'est l'occasion aussi d'aller dans des régions où on n'est pas sous ce joug du 21h le soir. Et puis il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est que d'habitude on dit, oh là, vivement les vacances quand on parle de la grippe, parce que comme ça, les enfants, ils vont arrêter de mettre la grippe partout. Ben là, c'est l'inverse, les enfants ne sont pas, ou peu contaminants et peu contaminés, donc au contraire, c'est l'occasion d'aller chez les grands-parents. Et je le redis encore une fois, en prenant toutes les précautions, surtout avec les ados. Parce que c'est les ados qui
Mais vous y croyez au masque pendant toute la semaine chez les grands-parents ?
Alors, moi, je crois au masque porté par les grands-parents toute la semaine. Je crois qu'il est important, puisqu'on le fait bien au bureau entre collègues. Pourquoi on ne le ferait pas enfin, dans une famille élargie ? C'est important que les grands-parents sachent que les petits-enfants, il y a moins de risques qu'avec les grands-enfants. Qu'avec les grands-enfants, on dîne soit à une table comme celle-ci, très grande, soit c'est chacun son tour, les grands-parents puis les petits-enfants, soit c'est deux tables séparées. Il faut pouvoir prendre des mesures, et c'est des mesures de distanciation sociale que de toute façon, il faut qu'on applique dans notre quotidien. Donc, il faut vraiment continuer et se dire que ce n'est pas le drame, quoi.
Fanny Guinochet, alors les Français acceptent, hein, on l'a vu, ces mesures, ce couvre-feu résigné parce qu'il y a l'inquiétude. Les restaurateurs, eux...
Pour eux, c'est le drame.
Par eux, c'est... Voilà.
C'est le drame, voilà. Pour eux, ils ont l'impression qu'ils ont appliqué les mesures de distanciation. On leur a demandé encore, dès la semaine dernière, de renforcer. Il y avait des gels hydroalcooliques sur toutes les tables. Vous savez, on remplissait dans les zones écarlates. Quand on allait au restaurant, on laissait notre nom, nos coordonnées. Et puis là, boum, ils ont le couvre-feu. C'est une petite mort très lente, finalement. Il y a beaucoup de découragement, parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette période cet été de « bon, ça repart, on réengrange du monde, finalement, on apprend à vivre avec le virus ». Et là, même si dans les 9 métropoles que vous citiez tout à l'heure, il va y avoir le couvre-feu, même si ce couvre-feu, a priori, est temporaire, c'est une perte d'activité, une perte de pouvoir d'achat, et puis c'est surtout la reprise d'une normalité qui s'éloigne. Parce qu'il y a les touristes français, il y a les Français qui vont au restaurant, mais ça plombe aussi le moral. Vous allez moins avoir envie, de, même si on s'accommode, d'aller dîner plus tôt. C'est des habitudes, on se moquait de nos amis étrangers, mais c'est des habitudes qu'on ne va pas forcément prendre. Et puis il y a tous les touristes étrangers aussi qui ne viennent pas ou qui ne viendront pas. Donc c'est le sentiment qu'à chaque fois, on leur demande un peu plus et ça s'éloigne. Et le gouvernement, à côté de ça, tente tant bien que mal de rassurer ses professions en disant Bruno Le Maire n'aura jamais autant dit, on ne vous lâchera pas, on sera près de vous, on va faire tout ce qu'il faut, on fait des rallonges, c'est des milliards d'euros à chaque fois. Mais il y a un moment où ça fait, pour ces professions-là, ça fait quand même des mois que ça dure, sans perspective de reprise, c'est le coup de massue.
Alors là, on parle des 9 métropoles qui sont concernées par le couvre-feu. À l'inverse, peut-être que les urbains vont avoir envie de quitter ces métropoles. Et je voyais déjà là sur Twitter une blague, les Bretons qui mettaient « chez nous, c'est complet hein. ». Il n'y a plus de place.
Et certains vont bénéficier de... C'est toujours pareil, hein, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Mais parfois, ils vont en bénéficier, sachant quand même que...
Il y aura du monde à Saint-Malo, peut-être, pendant
peut-être,
ces vacances.
Peut-être, ou au Touquet, ou à la Baule. Dans d'autres régions. Sachant que vous avez des villes qui appliquent, elles aussi, qui ne font pas partie des métropoles, cité par le gouvernement, mais qui applique quand même une forme de couvre-feu. Donc attention, finalement, c'est tout un secteur. Et puis, on parle des restaurants, mais il y a toute une filière derrière. Il y a les fournisseurs, il y a la filière agricole. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration, mais c'est tout un environnement. Vous avez tout ce qui est parc d'attractions, activités. Tout ça, c'est des secteurs qui, finalement, même s'ils sont assistés, il faut vraiment le dire, le gouvernement fait tout ce qu'il peut. On a vu hier Bruno Le Maire, Jean Castex détailler une série de rallonges, de mesures, ça ne remplace pas l'activité.
Cécile Cornudet, vous avez rencontré Emmanuel Macron, alors avant les annonces.
Après.
Comment vous est-il apparu ? Parce qu'on avait cru comprendre, et visiblement s'était trompé, qu'il voulait donner des bonnes nouvelles maintenant, Emmanuel Macron.
Oui, mais je pense que la situation sanitaire lui a échappé. En réalité, il y avait quand même déjà pas mal d'alertes, notamment de son ministre de la Santé depuis septembre, du professeur Delfraissy aussi qui disait « faut prendre des mesures », c'était en train de monter. Et Emmanuel Macron, toujours dans son souci de faire repartir la vie et la vie économique du pays, disait « on va s'en sortir en faisant des mesures très ciblées, en durcissant le protocole sur les restaurations, les restaurants, des choses comme ça. » Et puis à partir du 9 octobre, c'est assez précisément daté, un peu partout en Europe, c'est remonté en flèche, toutes les contaminations et toutes les hospitalisations. Les spécialistes pensent que c'est beaucoup le froid qui fixe le virus et qui pousse les gens à rester chez eux, d'où la politique d'ouvrir ses fenêtres. Donc bref, la situation lui a échappé. Et lui qui voulait éviter toute forme de reconfinement possible, vient sur une mesure qui est la dernière possible avant un reconfinement, qui est un reconfinement de nuit, quoi, si on veut dire. Et donc l'idée, c'est de mettre sous cloche, de sacrifier 10% de l'activité économique, les restaurants, les spectacles, tout ça, pour essayer de sauver sanitairement les choses et le reste de l'économie du pays. Mais donc il était quand même assez inquiet. En gros, il est en train de complètement changer sa façon d'aborder la fin de son mandat. Il voulait faire des réformes, il voulait poursuivre, etc. Là, on sent qu'il dit lui-même... D'ailleurs, il a une formule assez intéressante. Il dit le maître des horloges s'appelle le Covid-19.
Donc, ça n'est plus lui.
Disait, lui qui disait toujours, c'est moi le maître des horloges. Donc, d'une certaine façon, il accepte d'avoir dû changer son fusil d'épaule pour essayer de faire cette mesure difficile. Au moins pendant 6 semaines. Ce n'est pas exclu, si ça ne marche pas, ils vont regarder vraiment les chiffres dans 3 semaines, 4 semaines, s'il n'y a aucun effet. Ce n'est pas exclu que, comme en Guyane, on baisse l'heure du couvre-feu. Ah oui. En Guyane, on était parti à
23h, 21h.
Et ça a été 19, finalement.
Et ça a même été le week-end, tombé à 13h.
Voilà. Le samedi.
Donc ça, ce n'est pas exclu, ce serait l'étape supplémentaire pour éviter, encore une fois, d'avoir l'étape ultime qui serait un vrai reconfinement, qui serait un drame économique.
Alors, l'instauration du couvre-feu dans 8 métropoles, dans toute l'île de France, va donc bouleverser le monde de la nuit. Restaurants, théâtres, spectacles, cinéma, tous vont devoir s'adapter pour éviter la banqueroute. Et du côté des fêtards, certains imaginent déjà comment contourner les règles, comme vous allez le voir dans ce reportage de Paul-Rémy Barjavel et Diane Cacciarella.
Hier soir, dans Paris, les terrasses bondées, occupées surtout par les jeunes. L'une des dernières soirées au bar, sans regarder l'heure, avant le couvre-feu, qui doit commencer à minuit ce soir.
Égoïstement, on n'a pas envie, parce que psychologiquement, c'est très difficile. On est à Paris, la vie parisienne, pour nous, c'est ça. On travaille, et après, le soir, on profite entre amis. Mais ça, c'est une réaction plutôt égoïste et personnelle. Mais très clairement, en effet, il fallait prendre une décision pour améliorer la situation.
La vie sociale des jeunes perturbée. Mais certains imaginent déjà des stratagèmes pour contourner le confinement nocturne.
On pourrait être amené à se rejoindre plus tôt et... à faire des festivités ensemble beaucoup plus tôt que prévu et finir plus tôt.
On essaie d'organiser pas mal de petits week-ends hors Île-de-France, donc ça peut être aussi une petite solution.
Des jeunes, bien conscients que la mesure leur est avant tout destinée et plus ou moins prêts à jouer le jeu. Certains politiques l'ont bien compris, comme Jean-Luc Mélenchon, qui publie aujourd'hui cette vidéo sur le réseau social TikTok. Un clin d'œil pour les jeunes et un message au président de la République.
À contre-sens.
Hier, pourtant, un nouveau palier de l'épidémie a été dépassé. Plus de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés. Le taux de positivité des tests atteint 12,6%. Plus inquiétant encore, les contaminations des plus de 65 ans ont triplé en 6 semaines. Des chiffres alarmants qui justifient pour le gouvernement la fermeture de tous les lieux accueillant du public après 21h. Comme les restaurants, une décision qui a surpris Tessa Dit. Son établissement ne réalise déjà que 60% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Elle prévoit de s'adapter pour ne pas fermer.
Bon, on va essayer de faire du continu. Bon, après, il y aura le menu, le midi, ça ne change pas. On va essayer de faire des happy hours après jusqu'à 5, 6, 19h. Puis 20h30, on va en fermer l'établissement. On va voir ce que ça va donner pour commencer. Et puis après, on va faire ça sur 3 semaines.
Pour aider les secteurs de la restauration ou l'hôtellerie, justement, le gouvernement a annoncé une batterie de mesures. Fonds de solidarité élargi, exonération de charges, prêts garantis par l'État prolongés jusqu'en juin 2021, soit 1 milliard d'euros mis sur la table.
Vous faites partie des zones sous couvre-feu, vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires, quelle que soit votre activité, quel que soit votre secteur d'activité, nous réactivons le fonds de solidarité. Donc nous mettons en place un filet de sécurité général, économique, pour toutes les entreprises qui sont dans les zones de couvre-feu.
Ces mesures seront-elles suffisantes, notamment pour sauver la culture ?
On essaie donc d'organiser une représentation à 18h30 à la place du 20h. Est-ce que vous seriez disponible pour venir à 18h30 ?
Au théâtre Tristan Bernard, il faut décaler les horaires des spectacles et réduire la programmation.
Ça va, Titi ? Voilà une espèce en voie de disparition, technicien de montage de décor dans un théâtre.
Le couvre-feu tombe comme un coup de massue.
Vous ne pouvez pas survivre avec 7 mois de fermeture et après un mois et demi où vous allez jouer 2 fois par semaine. C'est-à-dire que pour payer les loyers, les salaires... Et là, le pire, c'est qu'on a tous investi sur les lancements des nouveaux spectacles. C'est-à-dire que vous avez payé les créations, vous avez payé la publicité, et là, on vous arrête au bout de 2 semaines. Donc tous les investissements sont faits, et là, c'est le pire moment.
Malgré leur appel à l'aide, les théâtres, cinémas et salles de spectacle ne pourront pas organiser de représentations après 21h. Le gouvernement a annoncé hier qu'il prendrait des mesures plus importantes pour les soutenir.
Alors, question téléspectateur, un couvre-feu à 22h n'aurait-il pas été un meilleur choix afin de préserver un peu les spectacles et les restaurants? Question de Christian dans l'Hérault, Cécile Cornudet.
Il y a eu de gros débats au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui était le plus frappant, le plus efficace? Ça a été au départ entre 20h et 22h. Et finalement, c'est 21h. Vous voyez la poire.
On sait qui était pour 20h, qui était pour 23h. Vous pouvez
alors,
nous révéler,
oui, Gérald Darmanin était pas très chaud pour un couvre-feu parce qu'il est chargé de la police et maintenant il va falloir le faire respecter. Alors, c'est pas simple. Le confinement avait été très bien consenti par la population parce que la population avait peur. Là, aujourd'hui, on ne sait pas comment va, vraiment ça va être accepté. Et lui, il ne sait pas s'il pourra, en termes de force de police, vraiment le faire respecter partout. Donc lui, il était vraiment sur le frein. Et Bruno Le Maire, par exemple, qui, lui, a eu le Covid, était pour aussi un couvre-feu. Mais je ne sais pas s'il était pour 20h ou 23h, pour le coup. Enfin, bon, bref, il y a eu beaucoup de débats au sein du gouvernement. Je crois que l'idée, c'était d'avoir une mesure forte et surtout uniforme partout sur le territoire. Parce que certains disaient, à 20h, Paris, c'est impossible. Il y a encore des gens qui travaillent, des étudiants qui rentrent dans le métro. On ne peut pas faire à 20h. En revanche, 22h en province, à Saint-Étienne, par exemple, de toute façon, les gens ont fini de dîner, etc. Donc, et ils ne voulaient pas faire des choses différenciées. Parce que, comme on le disait avec Jérôme Fourquet, l'idée, c'était de faire des mesures acceptées. Donc, acceptées, ça veut dire comprises par tous et équivalentes pour toutes. Parce que sinon, tout de suite, tout le monde dit, bah, moi, je veux pourquoi j'ai 20h et pas moi 22h. Bon, bref, 21h a été choisi parce que c'était peut-être le plus fort sans être discriminant pour Paris.
Il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Fanny Guinochet, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu d'exception pour le monde du spectacle,
exactement,
ce que réclamait Roselyne Bachelot.
Exactement, Roselyne Bachelot a essayé de peser. C'était son rôle, les ministres de la Culture, pour sauver le secteur culturel, décaler notamment pour qu'on puisse justifier, si on allait au cinéma avec un billet, la possibilité de rentrer chez soi un peu plus tard. Il y a eu un non assez clair. L'idée, c'est de donner la même règle pour tous, de donner le sentiment d'équité, que justement, il n'y ait pas des exceptions et qu'il n'y ait pas, dans la tête des gens, en tout cas, le sentiment qui est l'exception culturelle, qu'une fois de plus, on sauve les intellos, les cultureux, les gens du théâtre, et puis que les restaurateurs, les artisans, eux, soient soumis à une règle plus dure, même s'il va y avoir des aides, le gouvernement va compenser. Mais c'était aussi ça, ce sentiment de ne pas fracturer la société.
On voit la phrase
société.
De Bruno Le Maire, si vous commencez à multiplier les exemptions, on ne va pas s'en sortir, pardonnez-moi.
C'est ça, c'est avoir une règle claire, compréhensible pour tout le monde, applicable partout. Mais c'était aussi ne pas donner le sentiment qu'il y a des Français privilégiés et puis d'autres qui seraient moins entendus, parce que la crainte, au-delà du risque sanitaire, c'est aussi l'acceptation et le fait d'une fracturation de la société. Je parle sous le contrôle de Jérôme Fourquet, qui connaît bien ces sujets-là, mais la crainte, c'était de dire, on va faire qu'il y ait des Français de première ligne, de deuxième ligne, qui soient plus entendus, certains des lobbies qui sont plus puissants que d'autres et qui arrivent à faire valoir leurs intérêts. Donc non, c'est pour tout le monde pareil.
C'est une préoccupation de Emmanuel Macron. Là, il dit beaucoup, le Covid est inégalitaire. C'est les plus pauvres qui en pâtissent le plus.
On va y revenir sur
ça. C'était pareil, l'idée, effectivement, un petit restaurateur, pourquoi lui faire pâtir alors que quelqu'un qui irait au théâtre dans le 6e arrondissement de Paris, ce serait possible. Donc ça, ce n'était pas possible.
Est-ce qu'il y a aussi une acceptation des Français? Est-ce qu'il y a une acceptation de la classe politique? On voit déjà Nadine Morano qui dit, on avait 6 mois pour préparer nos hôpitaux à cette seconde vague, que ne l'a-t-on pas fait? Et du coup, résultat, on est obligé d'instaurer un couvre-feu. Est-ce qu'il y a quand même matière pour l'opposition à faire le procès en incompétence de l'équipe au pouvoir?
Oui, en partie, ils ne vont pas se gêner pour le faire. Mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, ce qui sauve quelque part ou qui protège un peu dans ce procès le gouvernement, c'est ce qui se passe à l'étranger. Et donc on voit que dans d'autres pays, d'autres cultures économiques ou politiques, d'autres systèmes d'organisation, personne n'est exempt de cette reprise du virus qui donne à l'horloge un peu partout. Et donc on peut, et ça va être fait, critiquer le gouvernement sur comment on n'a pas suffisamment préparé l'hôpital, parce qu'on rappelle encore que toutes ces mesures sont pour éviter l'engorgement des services d'urgence et de réanimation, mais le fait que ces d'autres pays soient eux aussi confrontés de manière inattendue et non désirée à cette reprise épidémique vient un petit peu atténuer la portée des critiques.
Ève Roger, on parlait de l'hôpital, c'est vrai que le nombre de réanimations chez les plus de 65 ans a triplé en 6 semaines, ça ce sont des chiffres qui frappent et des images même que montrent les médias ou...
Mais c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'est accéléré et on a perdu le contrôle de l'épidémie. On peut ergoter sur 20h, 21h, 22h, 23h, on a perdu le contrôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec 30 000 contaminations par jour, on ne peut plus remonter les chaînes de contamination. Et pour remonter les chaînes de contamination, il faut qu'on revienne à 5 000 contaminations par jour. Donc il y a tous les débats que vous voulez sur est-ce qu'il fallait pas. Il y a un moment, il faut tout arrêter.
Mais in fine, le goulet des étranglement, c'est la réanimation.
Alors, c'est la réanimation. Vous disiez, effectivement, on a perdu le contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait une incidence en Ile-de-France.
Les jeunes disaient le Covid, et alors,
mais tout d'un coup, les contaminations des plus de 65 ans qui ont été multipliées par 3. Voilà. Donc les contaminations plus de 65 ans multipliées par 3, ça veut dire que dans 15 jours, 3 semaines, c'est mathématique. En Ile-de-France, aujourd'hui, on a à peu près 800 lits, 500 lits ou 600 lits occupés. Dans 15 jours, 3 semaines, c'est sûr, il y en aura 1000. Et combien il y a de lits en Ile-de-France aujourd'hui? Il y en a 1200. Donc de toute façon, il n'y a pas de débat.
Ça, c'est très anxiogène. Chacun se projette en se disant, mon Dieu, je l'attrape, c'est la loterie, je peux me retrouver à la place.
Les
images sont anxiogènes.
Pour revenir à la question de l'acceptabilité, c'est vrai que les jeunes, moi j'ai fait beaucoup de sujets ces derniers jours avec les jeunes, ils disent, mais non. C'est rien, je ne veux pas me retrouver en réanimation. Ils disent, je connais les chiffres. Alors, je dis, c'est quel chiffre vous connaissez? Je connais les chiffres que les 9 morts sur 10, ils ont plus de 65 ans, donc ce n'est pas moi. Et quand vous posez la question, mais tes parents? Mes parents, ils l'ont déjà eu, c'était rien, c'était une grippe. Et tes grands-parents? Et là, l'argument, il est, on ne peut rien dire. Ils disent, ma grand-mère, elle m'a dit, je préfère mourir du Covid que de mourir seule et isolée. Donc, vous voyez, il y a l'acceptabilité chez les plus jeunes est quand même très difficile aujourd'hui parce qu'ils se disent, ça fait 7 mois que ça dure. Je suis en train de passer à côté de ma vie de jeune. Et ma vie de jeune, c'est quoi? C'est sortir, c'est avoir des relations le soir. Je suis dans ma petite chambre d'étudiant qui fait 7 mètres carrés. Je porte le masque toute la journée. Je regarde mes cours en visio. J'ai plus de copains, j'ai plus de profs en vrai. Et maintenant, on me dit, à partir de 21h, tu restes dans ta petite chambre ou alors, je fais venir mes copains dans 7 mètres carrés pour passer la nuit avec moi. C'est plus une vie. Et je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là de l'acceptabilité, chez les jeunes, c'est vraiment aujourd'hui le plus difficile.
Cécile Cornudet ?
Oui, et une des préoccupations d'Emmanuel Macron dans son émission, c'était d'essayer de convaincre les jeunes, de leur dire, dans 15 jours, les hôpitaux sont saturés. Ça veut dire que vous, si vous avez un accident, on ne vous prendra pas à l'hôpital parce qu'il n'y aura plus de place pour vous. Donc d'essayer de montrer que c'était effectivement chacun et qu'il y a des séquelles, même chez les jeunes qui tombent malades. Certains perdent le goût à jamais, des choses comme ça. Donc il a essayé de ne pas les stigmatiser, même si la mesure couvre-feu, c'est une mesure faite de jeunes, quand même, il faut bien dire ce qui est. Et en même temps, de les faire réfléchir à c'est pas juste, on ne s'en sortirait pas si on mettait juste les vieux à l'isolement. Parce qu'en fait, c'est ça qui court aussi beaucoup chez les jeunes, de leur dire il faut tous qu'on participe à cet effort.
Il a dit aussi qu'il fallait faire nation. À cette inquiétude sanitaire, Jérôme Fourquet, est-ce qu'il y a une autre inquiétude qui est l'inquiétude économique? C'est vrai, il y a un an pile, Bruno Le Maire disait que la France et l'Europe étaient menacées de déclassement. On a l'impression que cette épidémie va l'acter, ce déclassement économique de notre continent, de notre pays.
Alors, il y a d'autres. Les autres continents ont aussi été frappés par le Covid, hein, les États-Unis, l'Asie également. Mais effectivement, les Français sont plus inquiets en nombre des conséquences économiques et sociales du Covid que des conséquences sanitaires. Même si, on l'a dit, la peur sanitaire, la peur d'attraper le virus pour soi ou ses parents, ses grands-parents, est très répandue dans la population. On voit que les gens portent le masque, on a des files d'attente tous les jours devant les laboratoires d'analyse médicale pour se faire tester. Mais tout le monde a très bien intégré les conséquences en cascade de la mise à l'arrêt de l'économie et de la reprise de cette épidémie. C'est à peu près 85 à 90% de Français qui sont inquiets pour les causes économiques et sociales. Ils écoutent ce qui se dit dans les médias et certains aussi voient les conséquences près de chez eux, c'est-à-dire des membres de la famille qui tombent au chômage, des entreprises qui tombent à l'arrêt, des contrats d'intérim qui ne sont pas reconduits, etc. etc. Donc tout le monde touche du doigt les conséquences économiques et sociales de ce Covid. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a une relative acceptation des mesures, c'est que tout le monde a compris que le gouvernement était sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il faut protéger la population, protéger les services de réanimation. Et tout le monde a aussi entendu les cris d'appel au secours et à la responsabilité des personnels soignants. Et en même temps, essayer de maintenir une activité économique à peu près correcte pour éviter la catastrophe dans les mois qui viennent.
C'est terrible parce qu'on est entre deux mots. Hein. On est entre le chômage, perdre son boulot ou attraper le Covid. Et alors on se dit, et pour éviter que ça s'aggrave, il faut prendre ces mesures qui vont aggraver la situation économique.
Oui, après, effectivement, c'est un confinement, Bruno Le Maire l'a dit ce matin, ça aurait été 5 fois plus cher, entre guillemets. Hein. En tout cas, c'est 5 à 10 fois plus cher. Donc c'est un moindre mal.
Là, on confine la vie privée, on confine la vie nocturne, mais on essaye
de garder l'économie. Et c'est vrai que tous les Français s'en rendent compte. Il y a eu une période pendant le confinement où finalement, comme il y avait eu des mesures, beaucoup de chômage partiel, les plans sociaux n'avaient pas encore été actés, les employeurs n'avaient pas trop osé entamer des mesures de licenciement. Ça s'est surtout passé cet été et on a vu aussi cet été, il y a eu un petit rebond avec des reprises de contrats d'intérim, mais il y a beaucoup de CDD qui n'ont pas retrouvé de contrat, des gens qui étaient en contrat précaire qui n'ont pas retrouvé, des extras, on se disait la rentrée, ça va repartir, finalement non, très légèrement. Là, la perspective, vous avez les saisonniers qui ont moins bien travaillé, vous avez la perspective des fêtes d'habitude, c'est aussi une économie qui s'enclenche, là, rien, c'est aussi ça qui pèse. Et puis, il y a des chiffres qui sont là, au-delà, vous discutez avec les associations caritatives, elles vous disent que la pauvreté qui était déjà présente, hein, il y a quand même, il y avait déjà des pauvres en France, hein, plus de 9 millions, et bien là, ils vous disent, en l'espace de quelques mois, on voit arriver de nouvelles personnes qu'on ne voyait pas dans les banques alimentaires. La distribution de repas, c'est plus 25%.
On va revenir parce que malheureusement, on a des portraits croisés.
Donc c'est vrai que tout ça, les Français l'entendent et puis ils s'inquiètent parce que aujourd'hui, qui est vraiment protégé peut se dire que son revenu ne va pas bouger. Ce sont les fonctionnaires, les retraités, pour qui, pour le moment, le revenu. Et puis les gens qui sont en CDI. Plutôt dans des grands groupes, parce qu'ils pourront faire des accords de chômage partiel. Mais sinon, aujourd'hui, tout le monde devant l'emploi risque un déclassement.
C'est vrai que Jérôme Fourquet, on s'est beaucoup rassuré en disant finalement, les Français ne sont pas touchés dans leur portefeuille. La preuve, regardez, cette épargne qui gonfle. En fait, on se rend compte que si on creuse, on a deux types de Français. Hein, les CDI, comme le disait Fanny Guinochet, et puis les autres exposés au retournement de cycle.
C'est même encore peut-être un peu plus fractionné, comme disait Fanny Guinochet. On a des salariés ou des actifs qui sont relativement protégés, fonction publique, très grandes entreprises, mais toutes les grandes entreprises ne sont pas à l'abri. On voit Airbus, où il y aura des plans de licenciement. Et puis on a ensuite au moins deux autres catégories de Français, les salariés en CDI, mais dans des entreprises de taille plus petite. On a parlé du secteur de la restauration, mais regardons par exemple tout ce qui est l'événementiel. Le salon de l'agriculture qui est annulé, c'est des centaines ou des milliers d'emplois pour installer les stands, toute la logistique qui ne vont pas trouver d'activité. Et en dernier bout de cycle, vous avez tout le secteur de l'intérim, les CDD, ou les auto-entrepreneurs, ou les gens qui sont en CDI, mais avec des nombres d'heures très très restreinte, des femmes de ménage qui travaillent 10 à 15 heures par semaine. Et tout ce public-là a été beaucoup moins couvert par le chômage partiel et par notre modèle social qui est très protecteur. Il faut quand même le rappeler, on a un des modèles sociaux les plus protecteurs au monde. Le chômage partiel a été massivement employé pendant le confinement, plus que dans d'autres pays. Mais comme souvent, il y a des zones qui n'ont pas été couvertes. Et c'est toutes ces catégories de la population qui sont en train de décrocher, notamment les petits indépendants, un chef d'entreprise sans salariés ou avec un ou deux salariés, il avait droit à 1 500 euros d'aide. C'est pas rien, mais comme on disait tout à l'heure, ça couvre pas les charges et ça va si ça dure 2 ou 3 mois. Si on est sur une reprise de cycle épidémique et qu'on repart pour 4 ou 5 mois, toutes ces personnes-là sont en train de décrocher, de partir dans le décor.
Donc on l'a compris, hein, c'est tout un pan de l'économie qui continue à souffrir des conséquences de la crise sanitaire, alors qu'un chiffre inquiétant a récemment été dévoilé par les Secours populaires. Le nombre de demandeurs d'aide alimentaire a augmenté de près de 50% depuis mars dernier. Dépendre d'une association caritative pour pouvoir manger, une position très difficile à accepter pour ceux qui n'imaginaient pas un jour se retrouver dans une situation d'extrême précarité. Vous voyez ce sujet de Laura Rado et Pierre Dehorne.
Bientôt 7 mois qu'il n'a pas porté son uniforme.
Alors là, c'est mes vêtements de travail. Donc voilà, gilet, chemise, veste et pantalon. Bon, bah, ça reste là et ça prend la poussière. Hein.
Xavier Chergui est maître d'hôtel. Cocktail, salon, mariage. Il sert depuis 25 ans champagne et petits fours comme extra dans l'événementiel. Des missions courtes, mais régulières.
Une année de contrat, ça se modélise par un dossier aussi épais que ça. Hein, voilà. Et puis ça, c'est 2020. Voilà, donc ça s'arrête en mars. Hein.
Avec le confinement, tout s'est brutalement arrêté. Et surtout ses revenus, jusque-là confortables. 2700 euros en moyenne, 4000 les bons mois. Ses droits au chômage épuisés, il a dû demander le RSA en juin dernier.
Il y a EDF à payer. Il y a le téléphone, Internet, un peu d'essence hein, pour être mobile. Sinon, je revends la voiture, mais après, j'en aurai besoin pour travailler. Donc, non, c'est compliqué. La cantine, la rentrée scolaire, l'inscription à l'université du Grand. Hein, faut payer tout ça. Là, on est en mode survie, mais jusqu'à quand, on ne sait pas.
Avec les nouvelles restrictions sanitaires, Xavier le sait, son cauchemar pourrait durer encore de longs mois. Le responsable, selon lui, le gouvernement.
Aucune aide nous a été donnée ou informations concrètes pour ceux qui n'ont pas le droit au chômage, à l'assurance chômage, et qui n'ont pas le droit, double peine, hein, de travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler dans notre secteur. Eh bien, aucune aide, aucun revenu. Alors, tout ce qu'a fait l'État, c'est très bien pour les fixes, pour les patrons, les entrepreneurs, même si c'est du crédit. Pour nous, les intermittents du travail au sens large, nous n'avons rien eu.
Inactif.
Pour les plus précaires, Emmanuel Macron a annoncé mercredi une aide exceptionnelle. 150 euros, plus 100 euros supplémentaires par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Une mesure destinée, selon le président, aux plus jeunes, très touchés par la crise. Mais pour la Fondation Abbé Pierre, les jeunes sont justement les oubliés.
Nous, ce que nous demandions, c'est vraiment une augmentation de 100 euros du RSA, mais par mois, pas seulement un mois. Et puis aussi, l'ouverture de ce RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Parce que vous savez, ceux qui n'ont pas de soutien familial, qui sont en rupture familiale, s'ils n'ont pas de formation, s'ils n'ont pas d'emploi, ils ont 0 euro de ressources.
Car pour les associations, il y a urgence. 1 million de personnes auraient plongé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Devant ce point de distribution alimentaire, la file d'attente s'allonge chaque semaine. À 34 ans, Sabrina n'avait jamais connu le chômage. Quand son entreprise a fermé cet été, les difficultés pour payer les factures ont commencé.
L'assistante sociale a fait un calcul en fonction de mes revenus et de tout ce que j'avais à payer, toutes mes charges. Du coup, elle m'a dit « c'est pas possible, je pourrais pas vivre comme ça ». On se débrouille, mais je me suis pas rendu vraiment compte de la situation que j'ai pas touché le fond. Et justement, elle m'a aidée avant de toucher le fond.
Cette mère célibataire doit désormais faire attention à chaque dépense. Pas de vacances cet été, ni de sortie depuis la rentrée. Pousser la porte du Secours populaire n'a pas été simple.
La première fois, oui. Vous êtes, c'est sûr, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas une question de pauvreté, mais c'est pas une question d'ego non plus, mais vous en prenez un coup, quoi.
Les bénévoles s'inquiètent également de l'arrivée de nouveaux profils, comme des jeunes salariés.
Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de statut protégé. Tout le monde peut se retrouver à un moment donné en difficulté. On est juste là pour être un tremplin, leur permettre de finir les fins de mois, leur permettre de pouvoir aussi à certains moments se faire des petits plaisirs.
Le Premier ministre devrait annoncer demain de nouvelles mesures pour les plus modestes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.
Fanny Guinochet, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit que la pauvreté, ça n'est plus les autres. Là. On entend d'ailleurs souvent cette phrase « je me retrouve avec zéro ». Des gens qui n'imaginaient pas ça, quoi.
Quand on voit, par exemple, le maître d'hôtel, le monsieur qu'on voit au début du reportage, là, typiquement, c'est des professions avec des gens qui enchaînaient des boulots précaires, pas des petits boulots, des boulots importants. Ils étaient bien payés. C'est des gens, quand vous regardez, ils pouvaient gagner jusqu'à 4 000, 3 500 euros. C'est les salons, c'est les événements, c'est les colloques, toute cette activité qui fonctionnait très bien, mais qui n'était pas en CDI, qui n'était pas en contrat sécurisé. Et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des annulations. Et notre modèle social est très protecteur, mais il y a des angles morts et des trappes, vraiment. Et là, typiquement, on est dans ce type de trappe. L'autre, on en parlait avant le Covid, mais les familles monoparentales, c'est là où il y a le plus de pauvreté. C'est déjà des familles qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts auparavant. Et là, forcément, avec un traumatisme, un drame comme l'épidémie, eh bien, elle plonge. C'est la mère de famille qui fait quelques heures, qui faisait quelques heures et qui pouvait tant bien que mal essayer de finir le mois en faisant des petits extras pas toujours déclarés, des gardes d'enfants, des petits extras dans la restauration, dans la pauvreté, dans la propreté, et qui là aujourd'hui tombe dans la pauvreté. Et là où c'est terrible, c'est que après, on voit bien, ce qui reste, c'est les associations. Alors c'est vrai que le gouvernement a donné des aides, a essayé, il n'a pas rien fait. Hein. On attend demain, il va y avoir d'autres annonces. Mais il y a eu des aides, il y a eu l'allocation de rentrée scolaire qui a été augmentée, il y a eu les repas pour les étudiants boursiers qui ont été mis à 1 euro.
Mais on voit que psychologiquement, ça coûte beaucoup. On a vu cette femme cacher son visage et dire au combien c'était compliqué psychologiquement de pousser la porte d'une association d'aide.
C'est très, très, très difficile. C'est un sentiment de honte. C'est beaucoup. Par exemple, quand vous discutez avec les indépendants, c'est des gens qui, par définition, avaient choisi, certains, d'être indépendants, de faire leur job, de s'assumer, qui étaient pile poil dans le public auquel Emmanuel Macron avait l'habitude de s'adresser, prendre son propre risque, créer son propre job, ne pas dépendre, ne pas être assisté. Et puis là, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et effectivement, en dernier recours, ils vont demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui, avec cette deuxième vague de l'épidémie, qui se révèle parce que vous avez ce sentiment diffus qu'on ne va pas s'en sortir. En plus, le président a quand même donné une information importante. L'épidémie va être là jusqu'au moins l'été 2021. Ça semble une éternité quand vous êtes chez vous, que vous n'avez pas de perspective d'emploi et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à devoir franchir la porte d'une association caritative.
Jérôme Fourquet.
Oui, alors notamment pour les publics indépendants qui, pendant ce temps-là, ont des charges qui parfois continuent de tomber. Il y a des remboursements de crédit, des remboursements d'emprunt. Et donc, dire avant 6 mois, il n'y a pas de perspective, c'est tout simplement inacceptable. Pour revenir sur le reportage et ce que disait Fanny Guinochet tout à l'heure, on voit aussi de plus en plus apparaître une nouvelle figure dans la sociologie française, c'est ces familles monoparentales. Alors, si on appelle un chat, c'est souvent une mère célibataire. Hein, 90% des cas, ce sont des mamans. Ça représente 20% des familles aujourd'hui. 20% des familles sont des familles monoparentales. Ces figures-là, elles ont déjà émergé une première fois dans l'actualité sur les ronds-points au moment de la crise des Gilets jaunes. Et donc là, aujourd'hui, elles sont de nouveau en première ligne parce que c'est les maillons les plus faibles. À deux, c'est parfois compliqué, mais quand vous êtes seul à assumer les revenus du foyer, la moindre anicroche, et là souvent ce n'est pas une anicroche, c'est on perd son CDI, vous partez à la dérive et vous tombez dans la pauvreté. Et donc on a... Encore une fois, 20% des familles sont des familles monoparentales aujourd'hui. C'était 10% il y a une quinzaine d'années. Donc ce phénomène a explosé. Et là aussi, notre système de protection sociale, il était adapté plutôt à des couples. Et il y a les évolutions de la société qui modifient cette équation et qui font qu'on a aujourd'hui des fragilités qui sont bien plus importantes.
Alors Cécile Cornudet, on sait qu'Emmanuel Macron prépare un plan pauvreté, mais alors il l'a dit mercredi, il a dit qu'il faut faire attention avec ces aides qu'on donne sans contrepartie parce qu'après on s'y installe et le retour à l'emploi devient compliqué.
Oui, Emmanuel Macron, il se rend compte qu'il ne va peut-être pas pouvoir faire autant de réformes qu'il voulait, mais du coup, il est encore plus attaché à défendre la philosophie de son action. Et la philosophie, ce n'est pas l'assistanat, c'est on aide les jeunes, par exemple, à réinvestir l'emploi ou à investir l'emploi, mais on ne leur donne pas le RSA jeune. Ça va être un sujet politique avec la gauche, notamment.
Pas de RSA pour les jeunes.
Il n'y aura pas de RSA pour les jeunes.
Moins de 25 ans, on n'a pas d'aide.
Demain, il y aura une aide ponctuelle, manifestement, comme ils en avaient fait une au moment de mai et juin pour les étudiants de 200 euros. Mais il y aura surtout des dispositifs pour avoir un métier et rentrer dans l'emploi. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est on arrive cette génération à l'âge adulte. Souvent, elle a eu des parents qui eux-mêmes étaient des précaires et n'étaient pas dans l'emploi. Et donc, ils savent pas ce que c'est que d'avoir une vie professionnelle active. Donc, il faut pas les installer là-dedans, les enfermer là-dedans. Il faut les aider à accéder à l'emploi. Alors, cela dit, ils essayent aussi de combler les trous dans la raquette. Hein. Bruno Le Maire revient sur le quoi qu'il en coûte. On l'a ressorti à ce moment-là. Et il a élargi un petit peu aux indépendants les aides, le fonds de solidarité. Là, par exemple, dans l'événementiel, quand une entreprise perdait du chiffre d'affaires, elle avait le droit, elle a toujours le droit, à au moins 1 500 euros par mois pour passer le cap. Et bien là, ça a été étendu à toutes les entreprises, des petits indépendants qui travaillent pour l'événementiel, comme les fleuristes, les photographes, les maquettistes, tout ça. Donc ils essayent un petit peu d'élargir, mais c'est vrai que la philosophie, elle, c'est l'insertion, sûrement pas l'assistanat.
Ève Roger, est-ce qu'on peut faire un lien d'ailleurs entre la pauvreté et le Covid ? On sait que le Covid frappe, est une maladie très urbaine qui frappe les grandes villes. Est-ce qu'on peut dire également que c'est une maladie qui frappe plus volontiers les plus précaires d'entre nous ?
Je crois qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Hein. On a bien vu dans la première vague que les quartiers populaires ont été particulièrement touchés parce que les gens habitaient dans des petits appartements, il y avait une promiscuité, la difficulté de tenir les gestes barrières. Et puis on sait aussi que toutes les comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire l'obésité, les maladies chroniques, c'est souvent dans les milieux plus populaires parce qu'on a du mal à manger de façon équilibrée. Parce qu'il y a beaucoup de sédentarité. Donc en fait, effectivement, c'est la maladie des pauvres. Et que ce virus, alors on dit que le virus, il mène sa vie, mais il mène sa vie surtout dans les quartiers populaires. Et je pense aussi que les personnes des CSP+, ils ont quand même plus de moyens à la fois de mettre en œuvre les gestes barrières, de tenir le masque, de se laver les mains régulièrement. Et puis il y a aussi, maintenant, il y a quelques petits traitements quand même qui aident, surtout dans les formes graves et qui sont effectivement plus faciles d'accès pour les personnes favorisées.
Ça, dans les déserts médicaux, bien sûr.
Et alors, il y a un autre élément important qui fait que notamment un département comme la Seine-Saint-Denis avait été très touché, c'est qu'aussi ces publics sont ceux qui exercent les métiers de la première et de la deuxième ligne, qui sont les caissières, qui sont en contact avec le public, qui sont les femmes de ménage.
Et où il y a moins de télétravail.
Et on ne peut pas télétravailler. Donc, il y a tous ces phénomènes-là, et ce n'est pas franco-français, aux États-Unis aussi, par exemple, dans la communauté afro-américaine, il y a eu des taux de décès de victimes qui étaient beaucoup plus élevés, eu égard aussi aux postes qui sont occupés par ces publics-là.
Fanny Guinochet, on ne peut pas dire que le gouvernement ménage sa peine, il y a des milliards, on lâche des milliards. Est-ce que ces milliards descendent à hauteur d'homme pour tous ces gens qui basculent dans la pauvreté, ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils l'entendent à la radio et à la télé, mais que pour eux, ils sont seuls face à leurs factures?
La difficulté, c'est que quand vous avez un drame qui vous arrive, vous vous dites, c'est comme les réformes, hein, vous êtes pour, et puis quand ça vous touche, vous êtes un peu moins pour. Là, vous avez le sentiment que les autres sont mieux lotis que vous. Donc ça, c'est typiquement le cas même quand il n'y a pas la crise, et là, encore plus quand on est en situation de difficulté. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement essaye quand même de combler les trous dans la raquette. C'est de l'aide ponctuelle, c'est sûr, les aides aux plus précaires. Emmanuel Macron, Cécile Cornudel le disait très bien, ne veut pas s'éloigner de ses fondamentaux. Non, il ne mettra pas un revenu universel, ça va être aussi un des débats. Non, il ne mettra pas un RSA jeune. Oui, il va vouloir toujours faire en sorte que ce soit lié, que les aides soient liées à de l'insertion, ou en tout cas... Et puis, la volonté du gouvernement, c'est d'aider les entreprises pour garder les salariés, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait des embauches. Par exemple, sur les jeunes, le dispositif, le plan jeune, c'est vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef d'entreprise, si vous prenez un jeune en alternance, vous avez une prime. C'est plutôt des dispositifs comme ça, parce que l'idée, c'est de dire le travail, c'est le meilleur bouclier contre contre la pauvreté. Et c'est vrai, quand vous regardez les chiffres, parmi les personnes que l'on dit pauvres, donc on rappelle que grosso modo c'est vivre avec 1063 euros par mois quand on est une personne seule, eh bien vous
êtes... Ça correspond à 60%
du revenu médian, c'est-à-dire qui sépare en deux la population. Quand on regarde les chiffres, les chômeurs, c'est quasiment 1 sur 2 qui tombent dans la pauvreté, quel risque de pauvreté. Pour les familles monoparentales, 40% des familles monoparentales sont considérées comme pauvres. Donc c'est vrai que une fois que vous avez, alors tout ça, ce sont des chiffres, les gens les ressentent différemment. Mais quand vous avez un emploi, quand vous avez ou même une formation, le diplôme c'est le meilleur passeport aussi pour l'insertion. Donc Emmanuel Macron essaye de rester sur ses fondamentaux. Maintenant, la difficulté de cette crise, c'est qu'il n'y a pas de boulot. C'est que le taux de chômage, il augmente et que les entreprises, sans visibilité, eh ben, elles prennent des alternants, elles prennent des jeunes, mais on voit bien la difficulté qui est la leur de se dire je ne peux pas embaucher. Quoi.
Cécile Cornudet, il y a l'inquiétude sanitaire, il y a l'inquiétude sur l'emploi, son emploi, l'emploi de ses enfants, de son conjoint, etc. Est-ce qu'il y a une inquiétude aussi sur les finances du pays? Parce qu'on l'a dit, les milliards pleuvent par dizaines, par centaines, et on se demande bien d'où ils viennent, ces milliards, quand on se souvient qu'il y a moins d'un an, ça paraît une autre
vie,
on avait fait une réforme, on se battait, on a eu des semaines de grève, parce qu'il manquait 10 milliards pour financer les retraites à horizon 2025. Aujourd'hui, on a l'impression que 10 milliards, c'est ce qu'on claque en une journée.
C'est quoi qu'il en coûte. Ouais. Les taux d'intérêt sont bas et le pays emprunte. Et voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus politique pour dire il faut passer cette crise et il faut aider massivement toutes ces entreprises et toutes ces personnes pour le jour où enfin le Covid nous quittera, et ben ça puisse repartir vite. C'est ça l'idée. Après, tout le monde sait qu'une dette, un jour, il faut bien la rembourser. Mais sincèrement, aujourd'hui, personne ne ferraille là-dessus. Ce sera peut-être un sujet de la campagne de 2022, si le Covid est parti.
Et alors, à la question « rembourser mes camps », la réponse est « comme les taux sont à zéro, c'est une dette qui ne coûte rien, donc on la rembourse quand on veut
». Voilà, pour l'instant, tout le monde est dans cet état d'esprit.
Mais là aussi, on n'est pas tout seul. Hein. En Europe, tout le monde, même les Allemands, qui étaient quand même les pros de la rigueur budgétaire, ont revu leur logiciel. Là, l'idée partagée, c'est « sauvons les hommes, sauvons l'économie ».
Critère de Maastricht. Mais c'est fantastique, une dette qui ne coûte rien et où celui qui vous prête, c'est-à-dire la Banque centrale, ne vous demande pas de la rembourser en plus. Non ?
C'est
l'argent magique. Hein.
Et le jour où les taux monteront, en revanche, on peut avoir un accident. Donc c'est sûr qu'un jour, il faudra quand même la rembourser.
Le jour où les taux remontent, c'est le jour où on ne vous fait plus confiance.
Voilà.
Pour l'instant, la France bénéficie d'un capital confiance auprès des investisseurs.
Qui continuent de nous prêter à 0%. Alors, l'épidémie de Covid a déjà coûté cher aux comptes publics, on l'a dit, notamment à cause des dépenses de santé. Des dépenses qui vont encore augmenter avec l'arrivée de la grippe saisonnière, car le gouvernement entend vacciner les plus fragiles. Et cette année, la demande de vaccins est déjà en forte hausse, comme vous allez le voir dans ce sujet de Juliette Vallon et Arnaud Fora.
Depuis mardi, et le début de la campagne contre la grippe, c'est le rush dès l'ouverture pour cette pharmacie située en région parisienne.
On va aller dans le local faire le vaccin.
Les clients, en majorité des personnes âgées, défilent par dizaines pour se procurer le vaccin.
Je voulais vous dire, j'ai reçu le vaccin de la grippe.
Le bon pour le vaccin, oui.
Est-ce que moi, j'ai jamais fait jusqu'à présent.
Oui, ce serait bien de le faire, là.
Ah oui.
Oui. Hein. Vous savez, c'est un contexte particulier aujourd'hui.
Un contexte particulier, car cet hiver, le virus de la grippe risque de cohabiter avec celui du Covid. Les personnes les plus fragiles sont donc invitées à se faire vacciner aussi tôt que possible, munies de ce bon.
Ça, c'est un courrier qu'on reçoit de la Sécurité sociale quand on a plus de 65 ans ou qu'on est atteint d'une pathologie. Et c'est avec ce bon-là que nous, la prise en charge du vaccin est faite à 100%.
Est-ce que vous êtes soulagée d'être venue vous faire vacciner ?
Soulagée, oui, parce que j'ai entendu dire que peut-être il n'y aurait pas suffisamment de vaccins pour tout le monde. Comme je suis une personne à double risque, plus de 70 ans, j'ai 72 ans, et rémission de cancer.
Se faire vacciner contre la grippe, un bon moyen de faciliter le diagnostic en cas de coronavirus, car les symptômes des deux maladies se ressemblent fortement. Mais pour cette pharmacienne, pas facile de gérer les demandes de clients parfois angoissés.
On a aussi des demandes spontanées de vaccins, de personnes qui veulent se faire vacciner, mais qui ne sont pas éligibles au bon de la Sécurité sociale. Et donc, cela, il faut leur expliquer que bien sûr que c'est bien de se faire vacciner, mais qu'il vaudrait mieux attendre un mois et demi, puisqu'ils ne sont pas prioritaires.
Cette année, plus de 15 millions de Français jugés à risque, comme les seniors ou les femmes enceintes, sont invités à se faire vacciner gratuitement, tout comme 300 000 professionnels de santé. Pour les autres, il faudra débourser de 6 à 11 euros pour se protéger contre la grippe. Face à cette forte demande de vaccins, la France est-elle prête? Nous avons pu nous rendre au cœur du plus grand centre de production de vaccins anti-grippe au monde, cette usine du groupe Sanofi Pasteur, à une trentaine de kilomètres de Rouen. Ici, le vaccin est fabriqué de A à Z pour être livré à 150 pays.
C'est une machine qui va servir à mettre dans un étui tel qu'on le verra en pharmacie chacun de nos vaccins. Ce sont des machines très performantes qui vont tourner à plus de 30 000 seringues par heure.
L'épidémie de coronavirus et l'explosion de la demande de vaccins anti-grippe, un imprévu auquel le groupe a su s'adapter très vite, selon le directeur du site.
Cette année, on a réussi, malgré le contexte épidémique, à augmenter la production pour de plus de 20%. Et au niveau global, on est passé de 200 à 250 millions de doses, malgré l'épidémie, pour répondre à la demande de l'ensemble des pays, notamment la France. Nous avons investi plus de 200 millions d'euros dans un nouveau bâtiment de production d'antigènes pour la grippe qui se trouve juste à côté de nous.
Cette demande de vaccins anti-grippe qui explose, ce leader des grossistes pour les pharmacies l'a aussi bien remarqué. Par rapport à la même période l'an dernier, les commandes de ces 16 000 officines clientes partout en France ont été multipliées par 50 et se sont envolées très vite.
Alors ça, c'est un emplacement vide, un emplacement dans lequel il y avait des doses de vaccins contre la grippe. Cet emplacement est désormais vide puisqu'on a livré la totalité des doses que nous avons reçues.
Pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler de pénurie selon ce grossiste, même si les signaux sont un peu inquiétants.
Si nous ne recevons pas rapidement la deuxième partie de notre commande, nous ne serons plus capables de répondre aux besoins.
Selon le gouvernement, la France disposerait de plus de 15 millions de vaccins anti-grippe cette année, contre 12 millions l'an passé.
Alors, question téléspectateur. Il n'y avait plus de vaccins contre la grippe chez mon pharmacien ce matin. C'est la France des scandales. C'est Gilbert qui dit ça dans l'Hérault, Ève Roger.
Ah bah, on a entendu 20% de plus de vaccins dans les officines depuis mardi, puisque la campagne a commencé mardi. Donc, effectivement, on a peur d'un rush sur le vaccin pour une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison, c'est que les personnes fragiles, effectivement, elles n'ont pas intérêt à attraper la grippe et le Covid, parce que la double atteinte, je pense qu'elle est dramatique. Mais il faut aussi dire aux gens, la mauvaise raison, c'est que se vacciner contre la grippe ne protège pas du Covid. Ah. Alors qu'il y a eu une petite rumeur qui a couru, peut-être que ça pourrait faire une forme atténuée, ça n'a absolument rien à voir. Alors effectivement, l'important, c'est que les personnes vulnérables, et il y en a 16 millions qui ont reçu un bon de l'assurance maladie, elles aillent se faire vacciner, parce que, je vous rappelle un chiffre, puisque vous aimez les sujets réanimation, il y a 10 000 personnes qui sont allées à l'hôpital à cause de la grippe, et il y avait eu 1 900 personnes en réanimation l'année dernière. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 1 700 personnes Covid, et s'il y a la grippe en plus, ça ferait 1 900, c'est impossible. Donc ça, c'est très important que les personnes vulnérables effectivement se faire vacciner. Les autres, c'est pas la peine de se précipiter, parce que là, effectivement, il pourrait y avoir pénurie.
Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on dit qu'il y a tellement de gestes barrières et de masques que du coup, la grippe saisonnière circule très peu cette année sur la planète.
Alors on croise les doigts. C'est-à-dire que effectivement, il y aura sans doute moins de grippe, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gestes barrières pour la grippe, on les connaissait, mais personne ne les entendait. C'est-à-dire de tousser dans son coude, mouchoir à usage unique. Il a fallu le Covid pour qu'on entende ces préconisations-là. Donc effectivement, c'est possible qu'il y en ait moins, mais surtout, on a regardé dans l'hémisphère sud, et effectivement, la grippe qui arrive chez nous maintenant,
la grippe saisonnière,
on a regardé ce qui s'est passé, et ben, elle est non seulement arrivée plus tard, mais elle était atténuée aussi. Donc ça, c'est plutôt positif.
Fanny Guinochet, vaccin gratuit pour donc 12 millions de
16 Français. Même.
16 même millions. Les tests sont gratuits. On est quand même en France,
on a un bon système de protection sociale.
Non, pas les masques. Les masques, il faut continuer de les payer. Mais il a été question d'ailleurs de
les rendre gratuits. Oui, mais par exemple, les employeurs les fournissent. Il y a quand même les personnes les plus modestes ont eu une aide.
Qui paye? Alors là, c'est le quoi qu'il en coûte encore?
Bah oui.
C'est l'argent magique.
Mais c'est de la prévention. Entre payer des masques ou payer des vaccins, plutôt que payer une semaine en réanimation avec un personnel hospitalier, enfin franchement, il vaut mieux payer les masques et payer les vaccins. Si on arrivait à s'en sortir comme ça, le déficit aujourd'hui des comptes de la Sécurité sociale est abyssal.
Il est de
25, 30, 40, 41 milliards.
Ouais.
Voilà, 41 milliards. Donc, alors qu'au départ, on était plutôt l'année dernière, là aussi, ça nous semble très très loin, mais on était presque à l'équilibre, ou en tout cas, on était dans l'épaisseur du trait. Là, on a plongé. Donc finalement, le quoi qu'il en coûte, si on arrive à faire de la prévention, Et puis ce seront autant de gens qui n'iront pas dans les hôpitaux, alors que on le voit bien aujourd'hui, si on revient au pourquoi de le couvre-feu, c'est pour éviter un afflux massif de malades en réanimation et pour éviter que les hôpitaux ne soient surchargés avec des équipes de soignants qui sont déjà à bout.
C'est vrai que bon, là, le trou de la sécu, c'est absolument plus un sujet. Mais par exemple, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. En Allemagne, les tests sont payants et ils sont chers. Donc, on voit que quand même, les Allemands restent plus soucieux du Schwarz nul, comme ils disent, hein, du déficit zéro.
Alors, sachant quand même qu'en France, face à l'engouement pour les tests, on a réduit la population qui était éligible aux tests en disant, voilà, il faut être passé d'abord chez un généraliste qui vous donne une ordonnance pour aller vous faire tester, parce qu'à un moment, on avait eu un véritable emballement. Donc
on peut y aller quand même sans ordonnance, mais si on accepte d'attendre.
Mais quand on sait que c'est 70 euros en Allemagne, le test, ça veut dire qu'en fait, quand on va se faire tester gratuitement, derrière, il y a la collectivité qui paye 70 euros.
C'est à peu près 250 millions par mois. Voilà. Le test.
Oh. Emmanuel Macron l'a expliqué, il dit comme il y a eu une grosse polémique sur les masques, il ne voulait pas avoir une polémique sur les tests. Et après, c'est vrai que c'est questionnable, hein, ça a engorgé le système de tests et toute notre stratégie reposait sur tester, tracer, isoler, et ça a été impossible de le faire. Du coup, on est obligé de faire un couvre-feu. Donc, sincèrement, ça, je pense qu'il faut le questionner, cette gratuité.
Vous auriez posé la question au chef de l'État mercredi si vous aviez été là sur l'île.
Je ne vais pas faire la leçon à mes confrères.
Bon, eh ben, tout de suite, on revient à vos questions. Ce couvre-feu sélectif ne risque-t-il pas de déplacer les rassemblements festifs vers des zones épargnées par les restrictions ? Ève Roger.
J'imagine mal des jeunes parisiens aller faire la fête le soir à Dijon. Enfin,
les jeunes marseillais, ils peuvent aller à Bandol, non ? Je ne sais pas.
Alors, c'est possible aussi. Après, moi, ce que je vois plutôt, c'est que les jeunes, ils sont en train de s'organiser pour mettre des matelas dans les appartements, pour faire des fêtes privées dans des appartements. C'est plutôt ça que j'entends, moi. Et de faire des brunchs soirées. Et le dimanche, ça commence à midi. On commence avec du café et du thé. Vers 15-16 heures, on passe à l'alcool. Et puis, on se quitte vers 20h30 pour être chez soi à 21h. C'est quand même,
Vous avez entendu ce type de scénario circuler ?
J'ai fait un sujet aujourd'hui avec un témoignage comme ça. C'est-à-dire, soit les soirées pyjama, on arrive...
Soirée pyjama, on revient avec son matelas et on dort ?
Non, le matelas est déjà acheté dans le reportage que j'ai fait. Le matelas est acheté, soirée pyjama, ça dure de 21h, et puis jusqu'au petit déjeuner. Ils disent, on n'a pas l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble, ben là, c'est l'occasion. Les brunchs soirées.
En sachant quand même qu'il y a des... À côté des grandes métropoles, on a partout en France aujourd'hui des interdictions de rassemblement dans les salles polyvalentes, dans les salles des fêtes, pour mariage, soirée étudiante ou autre. Donc il y a quand même aussi des contraintes.
Il faut des résidences secondaires.
Qui soient volumineuses pour accueillir pas mal de monde. Et quitte à aller à Bandol, il y a aussi, comme l'a rappelé le président, la règle du 6. Oui. C'est-à-dire que le restaurateur ne peut pas accepter des tablés de plus de 6 personnes. Donc il y a quand même, c'est toujours pareil, c'est un ensemble de mesures qui vise à, le plus possible, éviter les rassemblements. Mais on peut contourner quand on en a les moyens.
Au train où va l'épidémie, quid des fêtes de fin d'année ? Parce que c'est vrai que Cécile Cornudet, sacrifier la Toussaint, bon, c'est la Toussaint. Noël, il y a un côté famille, il y a un côté...
D'ailleurs, il y avait deux Nobel d'économie, dont Esther Duflo, qui avait dit qu'il faudrait qu'on fasse un confinement dans les 15 jours avant Noël pour pouvoir sauver Noël. C'est vrai que c'est un gros questionnement et les Français sont très attachés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Où en sera l'épidémie ? Dans l'idée du gouvernement, c'était de frapper fort sur le couvre-feu pour essayer de sauver Noël. Donc on verra début décembre si ça a marché.
Il y a vraiment cette idée que le couvre-feu, il va durer de 4 à 6 semaines, parce que c'est ce que dit le conseil scientifique. Il faut ce laps de temps-là pour passer, comme je vous l'ai dit, de 30 000 à 5 000 contaminations. Donc si effectivement, début décembre, on est bien à 5 000, ça veut dire qu'on peut reprendre le contrôle de l'épidémie, il y a moyen de passer Noël en famille.
Parce qu'il y a l'aspect convivial, famille et autres, mais aussi un aspect économique. Il y a toutes les fêtes de fin d'année, les achats. Et donc, ce confinement, s'il était reprogrammé pour la fin de l'année, ça peut être une bonne nouvelle pour la vente par correspondance, hein, qui a déjà beaucoup engrangé pendant cette période. Mais vous voyez, c'est d'autres secteurs de l'économie qui, à leur tour, seraient touchés. Les derniers samedis d'achat de courses de Noël en Covid, on voit les dégâts que ça peut provoquer.
Macron gagne-t-il ou perd-il en crédibilité avec sa gestion de la crise du Covid ? On sait qu'il était très pour rouvrir, hein, pour que laisser partir les Français, laisser partir, repartir l'économie. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui lui en tenir rigueur ou dire qu'on a été imprudent par rapport à d'autres pays ?
En tout cas, les Français sont toujours très sévères. Je parle sur le contrôle de Jérôme Fourquet, sur la gestion des masques et sur la gestion des tests. Après, là, a priori, l'histoire du couvre-feu et cette volonté de mettre un frein au sanitaire sans totalement pénaliser l'économie, qui est une particularité française, ça a l'air d'être plutôt bien accepté. Mais c'est vrai que ça reste très profondément ancré. Les masques et les tests, voilà. Il ne s'en débarrassera pas si facilement.
Mais on voit que la cote de popularité du président de la République est assez stable depuis plusieurs mois. Alors, elle est très largement minoritaire, mais elle est relativement stable. Et encore une fois, les Français regardent ce qui se passe à l'étranger. Regardent aussi, ils écoutent aussi les spécialistes qui viennent sur vos plateaux et qui parfois eux-mêmes se contredisent de semaine en semaine ou s'affrontent avec leurs confrères. Et donc tout ça constitue plutôt des éléments qui viennent un peu amoindrir les critiques qui peuvent être portées au président de la République en disant il fait ce qu'il peut avec les données qui sont les siennes. On a dit à un moment il a laissé tout ouvert, mais on avait aussi toute une partie des experts qui disaient qu'il fallait le faire.
Oui, les gens sont critiques, mais quand vous leur posez la question « qui ferait mieux ?», il n'y a personne.
Pourquoi dit-on que les jeunes seront une génération sacrifiée ? Alors, pour être honnête, j'ai reçu des commentaires me disant « oui, mais autrefois, la jeunesse, elle faisait la guerre.
Voilà. »
Oui. Là, on ne vous demande pas grand-chose, on vous demande de rester chez vous.
Oui. Alors, on a une idée de l'âge des personnes qui posent ces questions.
Ben oui, mais qui disent « moi, j'ai fait la guerre, mes parents faisaient la guerre, et il n'y en avait qu'un sur un, tout le monde n'en revenait pas. »
C'est clair. Bon, après, qui est plus sacrifié ? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pire qu'avant ? C'est très difficile de répondre à cette question, parce que c'est aussi... un faisceau, il n'y a pas que la guerre, il y a la liberté que vous aviez, les possibilités, l'emploi. Clairement, là, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, c'est déjà une catégorie de population qui, en tout cas économiquement parlant, était la moins bien lotie. Vous aviez déjà, avant le Covid, un jeune sur cinq qui était en situation de précarité. C'est ceux pour qui c'est le plus difficile, et ça se comprend, de s'insérer parce que vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas d'expérience, et qu'il y a toujours eu en France, malheureusement, un chômage, en tout cas ces dernières années, un chômage des jeunes assez fort. Dans certains quartiers, c'est 40% de jeunes qui sont au chômage quand même. Donc c'est vrai que là, c'est un coup d'arrêt. Il y a le côté, on ne peut plus faire la fête, on ne peut plus à des âges où on a envie de vivre. Mais économiquement, les chiffres, ils sont là. Vous avez quand même une classe d'âge, 700 000, qui arrivent et qui n'auront pas qui ont du mal à trouver un boulot. Même les stages de troisième, les stages de découverte, Jean-Michel Blanquer a dit, cette année, le ministre de l'Éducation a dit, cette année, les stages de troisième, ça sera facultatif parce que c'est très difficile pour les entreprises d'accueillir un jeune. Vous avez la moitié, on vous dit, le télétravail doit être favorisé. Bien, quand vous prenez un jeune, vous le faites circuler dans la société pour lui montrer les différents métiers, vous êtes disponible pour lui. Là, vous êtes chez vous. Pour ceux qui peuvent télétravailler, c'est pas possible. Donc, on voit bien que ces difficultés... Et puis, tout à l'heure, on parlait de la dette. La dette, à un moment, elle se rembourse et ce seront les générations qui ont 20 ans aujourd'hui qui probablement la rembourseront. Parce que même si cette dette aujourd'hui, on nous parle d'une dette Covid, mise un peu de côté pour pas être remboursée tout de suite, elle va être remboursée dans quelques décennies plus tard. Donc ceux qui ont 20 ans, ils la rembourseront à 40 et à 50 ans.
Et la dette climatique.
Et les études sont très perturbées. C'est compliqué en ce moment pour un étudiant en faculté de suivre les cours alors que le prof met l'ordinateur à côté en faisant la moitié du cours à la moitié de la classe et l'autre moitié de la classe qui est en visio, qui voit son torse et qui n'entend pas ce qu'il dit. C'est très compliqué. Et il y a la stigmatisation qu'ils vivent quand même très mal, du style c'est à cause de vous qu'il y a la seconde vague et si on n'avait pas ces fêtes de jeunes, on n'en serait pas là. Donc tout ça crée un mauvais climat générationnel.
Téléspectatrices qui dépriment, métro, boulot, dodo, on y est, sans culture, sans loisirs, non veille, ont-elles encore un sens ? Allez, on est vendredi soir.
Il y a les livres.
Qu'est-ce qui pourrait remonter le moral ? Les livres.
Les livres, la télévision, Netflix, les plateformes, regarder, faire des soirées cinéma à la
lecture,
maison.
Les livres, plus 13%.
Ça augmente. C'est au moins un des secteurs où là, on redécouvre le plaisir de lire. Et puis après, il faut se dire que c'est temporaire. Comme on le disait tout à l'heure, on va essayer de vivre avec et peut-être aller au cinéma plus tôt dans la journée. C'est une organisation de vie, une organisation culturelle qui va être chamboulée.
Et bien voilà, c'est sur cette touche d'optimisme que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Rediffusion ce soir à 23h20. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.